Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette conférence sur le Nouvel Âge, l'intérieur du Nouvel Âge, la conspiration du Verseau. Donc la conférence durera à peu près 1h10, 1h. Et ensuite, pour ceux qui désirent, il y a le vidéo sur un sujet très proche, disons, un sujet sur le même sujet, les dieux de l'an 2000, donc les dieux du Nouvel Âge. C'est un vidéo très intéressant qui a été fait aux États-Unis. Et ça trace, disons, l'influence de l'hindouisme, des religions orientales aux États-Unis. C'est très, très intéressant. Donc, pour ceux qui désirent, vous pouvez rester après à regarder ça. Bon, je voudrais bien donner une définition du Nouvel Âge. Et il faut dire tout de suite qu'il est très difficile, sinon impossible, de donner une définition de ce que c'est le mouvement du Nouvel Âge. Le nom duquel est donc le Nouvel Âge de l'Aquarius. Pourquoi? Parce que le New Age, disons, comme mouvement, n'a pas de tête visible. Ils utilisent un système, ce qu'on appelle le networking, c'est-à-dire un rassemblement très, disons, éparpillé de plusieurs groupes sur plusieurs niveaux qui grandit, qui disparaît, qui change de lieu, qui change de nom, de personnel. C'est très, très flou, disons. C'est pourquoi on ne peut pas tellement mettre le doigt dessus. Mais c'est comme quelque chose, si on est dans le noir par exemple, on peut au moins tâtonner, on peut sentir avec les mains que c'est un objet inanimé, pas animé. On va aller un peu avec ce processus-là, on va décrire ce que c'est, en essayant de vous donner une idée claire. Donc par ces méthodes de développement personnel, sans souci écologique, donc, ces efforts pour se rapprocher de la nature dans le domaine de la vie, de la médecine, de l'alimentation. Le Nouvel Âge séduit des milliers de nos concitoyens ici au Québec. Il est séduit plus encore par un appel à une spiritualité moderne où se mêlent science et mystique, par sa volonté de changer par ce qu'on appelle des paradigmes ou des transformations sociales et intérieures, sa volonté de changer la vie et de susciter un homme nouveau. Bien, comme je vous ai dit, il n'y a pas tellement d'ordre visible extérieur. Le New Age, c'est quelque chose de... c'est très difficile à discerner ou mettre le doigt dessus. Mais il y a un ordre, c'est un ordre invisible. Et on peut appeler le maître de ce mouvement, le prince de ce monde. Ce mouvement a beaucoup plus d'éléments négatifs que d'éléments positifs. C'est une nouvelle façon de penser au XXe siècle qui établit des nouveaux... valeurs, des mœurs, pour une nouvelle façon de vivre. Et c'est construit, bien sûr, sur les ruines de la chrétienté, tout simplement. Pour les nouvel-âgistes, donc, nous sommes maintenant aux soirées, ou disons, de l'âge du pichet, ce qu'on appelle, ou du poisson. Et c'était toujours reconnu, disons, que l'âge du pichet, ou l'âge du poisson, symbolise la civilisation chrétienne, le poisson ayant toujours été le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ, Ictus. Donc voilà, les lettres du poisson sont le Jésus-Christ, sauveur des hommes, en grec. Et maintenant, on passe de cet, disons, âge du poisson, disons, à l'âge du Verseau. On parle beaucoup de ça, on parle de cette transformation, ce passage de l'âge du poisson à l'âge du Verseau. Qu'est-ce que cela représente concrètement? C'est très beau de dire que nous sommes dans un nouvel âge, mais ça correspond à quoi? Y a-t-il un rapport à quelque chose de concret? Oui, c'est que vous savez qu'à l'équinoxe du printemps, au-dessus du méridien de l'équateur, il y a une constellation. Et jusqu'à ce siècle, depuis, disons, 2000 ans, c'était la constellation du poisson. Et maintenant, au XXe siècle, la constellation s'est changé tout simplement parce que les constellations se désagrègent, ils changent de position et de forme, et nous sommes passés, disons astrologiquement, si je peux dire, de la constellation du poisson à l'équinoxe du printemps à disons, la constellation du Verseau. Bien, est-ce qu'il y a un lien entre ces faits astrologiques et l'histoire du salut? On peut le croire, mais on ne met pas notre foi là-dedans. Donc, selon les gens du Nouvel Âge, chaque âge suit un maître. Donc, le maître de l'âge du poisson, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour l'âge d'Aquarius, qui est maintenant, disons, en pleine expansion, le nouvel maître sera Lucifer. Parce que, disons, Dieu est mort, si vous n'êtes pas au courant. Le nouvel âge est établi pour préparer, disons, les esprits, afin qu'ils acceptent ce nouveau maître, cette nouvelle façon de vivre. Peut-être ce que je dis semble exagéré, mais je vais faire le preuve, disons, de façon rigoureuse de mes propos. Donc, si vous avez compris qu'il y a un passage astrologique de l'âge du Verseau à l'âge de l'Aquarius. Quels sont les précurseurs aux origines du Nouvel Âge? On peut parler d'une rôle prépondérante de la secte théosophique, donc la société théosophique. Au début de ce siècle, il y avait une petite minorité de gens qui ont voulu, disons, anticiper ou hâter une ère, donc une ère de conscience à renouveler, donc de connaissance, de conscience universelle, un saut, une transformation de la conscience collective des gens. Ils ont voulu être libérés du christianisme qu'ils ont vu comme étant une force qui a restreint les actions morales des gens par des mœurs et des croyances encrustées et rigoureux. Et ce sont ces mœurs qui ont été le pilier, bien sûr, du christianisme en Occident. Les précurseurs, disons, du Nouvel Âge ont voulu attaquer, justement, à la foi et aux mœurs chrétiennes. Le mouvement théosophique était fondé en 1875 à New York. Et c'était fondé par une dame qui s'appelle Madame Blavatsky. Et on peut dire que ces doctrines sont tracées, disons, de la Kabbale juive et ensuite de la tradition ésotérique orientale et juive. Les écrits de l'une de ses dirigeantes, Alice Bailey, qui a vécu entre 1880 et 1949, constituent un peu la Bible pour les gens dans ce mouvement théosophique. Elle est la successeur de Madame Blavatsky. C'est qui Madame Blavatsky? Un drôle de nom. Bien. Elle est la fondateur de la théosophie et puis elle est une suffragette féministe, libertine, elle mangeait la drogue et puis elle avait plein d'affaires avec une multitude de personnes. Donc c'était une dame immorale qui a fondé ce mouvement justement pour justifier sa vie. Bien sûr, il y a une doctrine aussi. Donc il y a le rôle, le mouvement de la théosophie, on va voir de plus près ce mouvement en quelques instants. Mais il ne faut pas oublier aussi le rôle du prêtre jésuite à Théard de Chardin. Et dans tous les livres du Nouvel Âge, j'en ai dans ma valise, la conspiration d'Aquarius par Marilyn Ferguson, par exemple, on parle constamment de Pierre Théard de Chardin, lui qui a parlé du Christ cosmique et du fait que nous sommes des gouttelettes de conscience qui sont en train d'évoluer vers, ce Dieu conscience universelle. Donc, il est l'apôtre de la conscience cosmique et de l'émergence d'une espèce de super-humanité. On va parler un peu plus maintenant de la théosophie. Bien, Madame Blavatsky, c'était un personnage bien mystérieux, il faut bien l'admettre. Elle venait de la Russie, et depuis son enfance, elle était initiée dans l'occultisme. Donc, la science occulte ou cachée liée à l'astrologie et puis, au médium où on fait le channeling avec les esprits, etc. etc. En 1875, comme je vous ai dit, elle a fondé à New York son mouvement de théosophie, donc Théosophia, sagesse de Dieu. Donc, ils ont appelé, parce que c'est une science occulte, une science gnostique un peu et kabbalistique. Qui venaient des grandes traditions gnostiques qui se fondaient, la gnose se fonde bien sûr sur la Kabbale juive. C'est une science ésotérique, une connaissance des choses cachées, une communication avec des êtres supérieurs dans des mondes supérieurs. Donc c'est l'occultisme. Après plusieurs années, Madame Blavatsky a déménagé à Madras, en Inde. Bon, peut-être c'est un peu drôle qu'une dame qui a vécu à New York, tout à coup, elle s'en va en Inde. Bon, c'est pas par hasard. On va parler de ça plus tard. Le lien entre la théosophie et les croyances orientales. Son successeur était Annie Besant, qui est une membre, disons, du British Fabian Society. Donc, c'était un mouvement politique qui défendait un peu les valeurs de la gauche. Et elle était une suffragette. Elle était ce qu'on appelle, disons, elle aimait le même sexe, elle était lesbienne et membre de Parlement aussi. Bien. Un autre membre de ce triade occulte était Alice Bailey, donc Madame Blavatsky. Ensuite, il y a Annie Besant et Alice Bailey. Et c'est Alice Bailey qui était vraiment le souffle, l'élan derrière disons, le grandissement du mouvement théosophique dans le monde entier à cause de ses écrits. Mais elle a coupé un peu avec la théosophie. Et elle a fondé ce qu'on appelle l'école de l'arcane. Arcane, c'est un mot qui veut dire le secret, tout simplement. Donc c'est encore cette science secrète, théosophie, la gnose, la cabale, ce sont des sciences secrètes, donc l'occulte, l'occultisme, tout simplement. Donc elle a fondé ce qu'on appelle la fiducie de Lucis, Lucis Trust. Et encore aujourd'hui, disons, ce qui demeure du mouvement est au Plaza de l'ONU à New York. Donc, au début de ce siècle, donc Lucis, c'est bien sûr c'est Lucifer, l'ange déchu de lumière. Bon, au début de ce siècle, les occultistes ont mis ensemble, ou mis en pied, disons, un ensemble de croyances qui ressemblaient grosso modo à une charte constitutionnelle théosophique pour tout le mouvement New Age. Et d'où sont venues ces idées? Donc, on a parlé un peu de l'occultisme, la cabale, etc., etc. Ce sont des racines plutôt occidentaux, si on peut dire. Mais il ne faut pas négliger le côté oriental, donc du mysticisme, du soi-disant mysticisme indien, et de leur propre guide esprit, parce que chacun de ces personnages était guidé par des esprits qui les parlaient et qui parlaient par eux. Bon, bien. Donc, même avant qu'on parlait de channeling, donc c'est un mot très courant aux États-Unis, même au Québec, c'est le mot français maintenant, channeling, ça veut dire être médium, donc être l'intermédiaire entre le monde astral et le monde physique. Et il y a des esprits qui viennent parler à travers ces êtres choisis, qui ont un pied dans le monde astral et un pied dans le monde physique. On va parler de ça tantôt. Bien, quelles sont les influences orientales du mouvement New Age, l'union avec l'Orient, donc? Parlons d'abord d'un événement très important, c'est le Congrès de religion de Chicago en 1893, congrès qui était condamné par Léon XIII. Aucun catholique avait le droit d'assister à ce congrès. Parce que ce n'était pas un congrès catholique, c'était un congrès où le mondialisme religieux prônait, disons, une espèce de philosophie syncrétiste où toutes les religions sont des chemins qui amènent vers Dieu. Donc les catholiques, comme nous croyons que nous avons la vraie religion, la seule vraie religion, c'était interdit aux catholiques de participer à ce congrès, ce parlement mondial des religions, qui a quand même attiré 140 000 personnes juste avant le changement du siècle. Les conférenciers incluaient, disons, des moines bouddhistes, aussi des théosophistes, par hasard, des shintoïstes, excusez-moi, et quelques modernistes chrétiens, quelques catholiques, disons, qui désobéissaient au pape, mais ils étaient là à titre privé. Il y avait quelques mystiques aussi, quelques mystiques, soi-disant. Il y avait le Swami, donc, Vivekananda, qui était de Bengale, en Inde, et c'était le premier disciple de Ramakrishna Paramahansa, qui était mort, disons, en 1887 en Inde. Et même aujourd'hui en Inde, son visage rayonnant figure sur les timbres-poste. Il est aussi populaire et connu en Inde que Mahatma Gandhi. Bien, il est appelé en Inde un homme-dieu. Vivekananda était un orateur inspiré qui plaidoyait pour l'unité de toutes les religions. Et donc, il était irrésistible, disons, à la foule qui assistait à ce congrès, ce parlement mondial de religion. Il avait une commande de la rhétorique, il parlait bien, et il avait une nobilité et une certaine vertu de caractère. Donc il attirait, c'était un homme noble, c'est un homme éduqué. Il avait passé par des universités en Occident, donc c'était un homme avec un certain caractère. Et comme je vous ai dit, il plaidoyait pour cette idée, toutes les religions, ce sont des chemins qui amènent vers Dieu. Donc, Vivekananda était un syncrétiste, ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est le syncrétisme? C'est ceux qui, disons, œuvrent pour l'union de toutes les religions. Il a étudié les écritures de chaque religion majeure. Il a vérifié chacune de ces religions et leurs écritures, soi-disant, par le fait qu'il a atteint l'état de samadhi ou l'auto-illumination. C'est-à-dire qu'il a achevé la divinité en lui-même par la méditation du Torah. Il a médité aussi, disons, les Saintes Écritures. Il a étudié les Upanishads et les écritures hindoues. Et puis, que ce soit Bouddha, Krishna, Jésus, il a soi-disant arrivé au même niveau d'illumination avec chaque religion. Bien, donc il disait qu'il était amené à la divinité. Il avait une espèce de foi mondiale, disons, qui était une espèce d'assimilation de toutes les religions dans un tout, qu'il appelait la divinité védantique. On va parler de ce que cela signifie. Bon, védantique, les vérités védantiques, c'est que Dieu, c'est l'océan de l'être. Il est la conscience souveraine. Et donc, Dieu est un océan de l'être, et donc nous sommes comme des gouttelettes, comme je disais tout à l'heure, qui forment des ruisseaux qui sont menés vers cet océan de conscience collective qui est Dieu. Donc, nous sommes Dieu. Nous sommes la rêve de Dieu. Nous sommes la conscience de Dieu. Et nous avons à retourner, on va parler de ça, par l'évolution spirituelle, c'est-à-dire la roue du karma, du karma, on doit retourner, on doit échapper à la matière où on est condamné, emprisonné, pour échapper en Dieu. Voilà. Donc tout est illusion, tout est rêverie de Dieu. C'est la Brahma, cet océan de conscience au-dessus de tout, qui médite et nous faisons partie de sa méditation. Donc tout ce que nous vivons, tout est illusion, tout est un. Donc c'est la vision holistique, disons, du monde, que ce soit un homme, une grenouille ou, un arbre, tout est Dieu, tout est un en Dieu. Donc Vivekananda a utilisé l'illustration suivante pour démontrer, soi-disant, si on pourrait le faire, la véracité de sa thèse. Il disait que si on décrit la trompe d'un éléphant, ou un autre décrit sa jambe, un autre encore décrit la queue d'un éléphant, il semble, si on prend chaque reportage sur un élément isolé, donc soit la trompe, soit l'oreille, soit la queue, soit la patte, il semble que les différents, reportages se contredisent. Mais non, il dit, si on met les nez ensemble, ça fait un éléphant. Voilà. Donc, toutes les religions, la catholicisme, c'est la patte de l'éléphant, le bouddhisme, c'est sa trompe, l'oreille, c'est le protestantisme, etc., etc. Mais ça fait un éléphant. Donc, tout est un. Toutes les religions s'équivalent, plutôt, et Dieu est tout en tout. Bien, quelques vérités cardinales védantiques, donc du Veda, cette idée que l'homme, doit évoluer vers cette conscience collective qui s'appelle Brahma ou océan de l'être, de statique éternel. L'âme est éternelle et divine et donc fait partie de la divinité. Comme je vous ai dit très littéralement, l'homme est Dieu. Donc un des exemples qu'on utilise dans la littérature du New Age, c'est un une mère qui donne, disons, qui allaite son enfant, c'est Dieu qui coule en Dieu. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes convaincus. Mais la vie, c'est simplement une illusion. Donc, il n'y a rien qui existe. Il n'y a que des dualismes. Donc, c'est l'ancien manichéisme, mais poussé vraiment à l'extrême au-dessus, parce que là, on reconnaissait deux actes de Dieu souverain, soi-disant, c'est une contradiction en termes, mais disons un Dieu de bien, un Dieu de mal. Mais ici, on va un pas plus loin. Le dualisme, la matière est illusion, le bien est illusion, le vrai est illusion, tout est un en Dieu, tout est Dieu. Donc, vous ne pouvez pas faire de mal. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites est divin. Dans les dualismes, par exemple, de la mer, c'est-à-dire ce qui est amer ou ce qui est sucré, les ténèbres, la lumière, le bien, le mal. Ce sont des différents côtés de la médaille, mais il y a une réalité qui font une réalité unitive. C'est-à-dire, le bien, c'est le mal, c'est le bien. Et ça fait un tout. Toute réalité est composée de conscience, de connaissance collective. Donc, l'existence est la rêve de la divinité. C'est Vishnu. C'est ce Dieu qui flotte dans un lac de conscience sur une espèce de feuille de lotus, dans la position du lotus. Et puis, nous sommes comme des globules, un puits d'atomes, de conscience qui sort de ce Dieu et qui doit revenir, et qui sont comme emprisonnés dans la matière. Donc par la karma, par l'évolution spirituelle, par la réincarnation, nous échappons à ce cycle vicieux et terrible. Seulement quand ces gouttelettes de conscience, disons, retrouvent cette océan primaire, disons, est-ce que cette illusion s'arrêtera-t-elle, et que l'illusion du séparé, de ce qui est séparé, serait finie. Parce que la séparation, c'est une illusion. Le fait que vous êtes séparé de moi, je suis séparé de vous, c'est une illusion. Tout est un. Le credo primitif, maintenant, du mouvement du Nouvel Âge, la théosophie. Bien, quelques dogmes, disons, ou doctrines de cette croyance. Donc le problème de l'homme, le problème élémentaire de l'homme, c'est qu'il est tombé de son statut, sous son statut antérieur de divinité, d'unité à Dieu, de divinité tout court, il est tombé dans l'existence matérielle. Voilà le péché originel d'un nouvel agiste. C'est pas le péché, ça n'existe pas. C'est pour des petits-enfants ça. Mais disons le péché originel pour un nouvel agiste, c'est de tomber de la divinité et d'être, disons, d'avoir à subir une existence matérielle. C'est pourquoi en Inde, on ne s'occupe jamais des pauvres dans la rue. C'est pourquoi on appelle Mère Thérèse pour s'en occuper de ça. C'est vrai, parce que, disons, tout est un. Donc la souffrance, l'existence matérielle, c'est un emprisonnement que vous avez mérité parce que vous l'avez choisi. C'est par un choix consciencieux, avant dans votre dernière vie. Donc vous avez choisi d'être là, vous avez mérité cela, et donc je n'ai pas à m'en occuper. De toute façon, tout est illusion. Si vous souffrez, c'est la même chose que vous ne souffrez pas. Si vous êtes riche, c'est la même chose que vous êtes pauvre. Je n'ai pas à m'en occuper. Les œuvres de charité, ça n'existe pas pour un hindou. C'est la folie. Parce que tout est Dieu, tout est illusion, tout est bien. Voilà. Donc le péché, c'est quoi le péché? C'est l'ignorance de cette divinité. Celui qui ignore sa divinité, c'est quelqu'un qui est dans le péché, disons. La théorie de l'évolution de Darwin, c'était bien connu par les hindous. Ce n'est pas Darwin qui a inventé ça. Ils avaient toute une théorie d'évolution spirituelle de par la réincarnation et ce grimpage, si on veut dire, le fait de grimper de plus en plus haut dans la roue, disons, cosmique du karma. Donc, il faudrait que nous évoluons de par la réincarnation. Donc, le but, c'est d'aller à un échelon plus haut, d'échapper, si vous étiez grenouille, c'est de devenir chevreuil. Et puis, si vous étiez chevreuil, c'est de devenir, disons, Karl Marx. Et puis, si vous êtes Karl Marx, c'est de devenir un esprit guide, et puis d'être, devenir un dieu vivant. Voilà les Krishnamurti et les swamis, les gourous en Inde qui sont vénérés comme des dieux vivants. Comme les catholiques adorent le Saint-Sacrement, un hindou adore son dieu-homme, son homme-dieu, dans la personne de leur gourou. Voilà. Bien, nous sommes des dieux alors. Et puis il y a des maîtres sur le chemin, des maîtres qui nous montrent l'ascension. Ce sont ceux qui se sont divinisés en eux-mêmes. Ceux qui ont quitté la matière, l'existence matérielle, ils se sont rentrés en eux-mêmes, ils ont atteint cette union avec la conscience de l'océan de l'être au-dessus de nous-mêmes, cette conscience universelle. Donc, qui sont bien en route vers Dieu, vers l'absorption, l'osmose avec Dieu. Donc, nous devons aller voir ces maîtres pour justement savoir comment échapper à cette vie. Qui est Jésus-Christ dans cette optique de la théosophie et disons de cette philosophie orientale, de cette religion hindoue? Jésus était, disons, un adepte occulte. Il était un de ses maîtres, tout simplement, qui a réalisé qu'il était Dieu. Mais c'est un maître parmi d'autres, dans Krishna, donc Venakananda, Krishnamurti en Inde, ou Krishna, tout simplement. Ce sont des maîtres ascendus, Bouddha, Mohammed, ce sont des maîtres ascendus qui ont réalisé leur propre divinité. Bien, donc le Cantiaque de Chardin disait le Christ cosmique et cette conscience christique collective, il parlait tout simplement du panthéisme hindou où le créateur et la créature se mêlent. Ils ne sont pas séparés, ils sont unis. Et bien le Christ était en pleine possession, pas de la divinité transcendante, mais il était en pleine possession de cette divinité panthéiste. Parce qu'il était un maître, il a échappé à la roue du karma et par des réincarnations successives, c'est ça le karma, des réincarnations successives, il a échappé à l'existence matérielle. Blavatsky maintenant, dans son livre qui s'appelle Isis Unveiled, ou le dévoilement d'Isis, ou le dieu égyptien, pendant 800 pages, elle attaque le christianisme. Bien, donc l'entrée maintenant de Lucifer, qui est l'héros vaincu et le sauveur. Blavatsky, donc, attaque terriblement Dieu dans ce livre. Citation de son livre, Isis Unveiled. L'appellation Satan, ou en hébreu Satan, est l'adversaire, appartient en droit strict à celui qui était le premier et le plus cruel des adversaires de tous les autres dieux. Jéhovah, donc Yahweh, donc le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire est celui qui a persécuté les autres dieux, c'est lui qui est l'adversaire. Dieu, notre Dieu, est l'adversaire. Et non pas le serpent qui a parlé seulement des paroles de bienveillance et de sagesse. Madame Blavatsky déclare, pour continuer, une fois que la clé de la Genèse, donc du livre de la Bible, de la Genèse, est entre nos mains, la cabale scientifique et symbolique dévoile son secret. Le grand serpent du jardin d'Éden et le Seigneur Dieu sont identiques. Je répète, le grand serpent du jardin du paradis terrestre, et le Seigneur Dieu sont identiques. Satan, bon, c'est moi qui parle maintenant, est vu dans cette optique par le sauveur de l'humanité, qui libère l'homme de l'ignorance et de la mort. Il devient le créateur de l'homme divinisé. L'homme réalise par Satan, par le serpent, qu'il est Dieu. Et c'est justement ça dans le récit de l'Ancien Testament. Satan, pour continuer les citations, Mme Blavatsky, Satan, le serpent de la Genèse, est le véritable créateur et bienfaiteur, le père de l'humanité spirituelle. Parce qu'il est, c'est celui qui a ouvert les yeux du sosie Adam, créé par Jéhovah ou Yahweh, comme il a prétendu. C'est celui qui était le premier à souffler, dans le jour où vous mangerez du fruit, vous serez comme Elohim, comme Dieu, comme des dieux, sachant le bien et le mal. Donc, celui qui a soufflé cela peut seulement être vu ou considéré dans la lumière d'un sauveur. L'adversaire à Jéhovah, il demeure toujours dans la vérité ésotérique, le messager de l'amour perpétuel qui nous a donné une immortalité spirituelle au lieu d'une immortalité physique. Donc Lucifer devient l'initiateur dans cette voie de l'autodivinisation de l'homme. Blavatsky blasphème en appelant le Christ, citation, le premier-né, le frère premier-né de Satan. Blavatsky et ses maîtres haïssent, disons, le dogme traditionnel de la chute et parlent au ce sujet avec une émotion vraiment considérable. Finalement, il a créé Dieu. Donc Dieu a créé le dogme blasphématoire de l'enfer et de la perdition éternelle. Donc c'est un blasphème, cela. Il a, disons, étendu le film épée entre les intuitions plus hautes de l'homme et les vérités divines. Et le résultat le plus pernicieux de tout, c'est que cela a rendu les hommes ignorants, sont demeurés dans l'ignorance du fait qu'il n'y a pas de démons ténébreux dans l'univers avant l'apparence de l'homme, l'apparition de l'homme, ni sur d'autres terres. Donc les démons, l'enfer, la perdition, la damnation, ce sont des illusions. C'est quoi la deuxième venue du Christ dans cette optique? Le théosophisme précède les croyances du Nouvel Âge par plus ou moins 50 ans. Donc toutes ces idées qu'on voit véhiculées dans notre société dans de différentes formes, ces idées, disons, ont eu naissance ou ont été codifiées plutôt par ces gens, Blavatsky et la société des théosophistes, au début du siècle. Citation. Le venu du Christ, selon Madame Blavatsky, citation, veut dire le réveil de l'esprit christique dans l'humanité, en tous ceux qui sont capables de le recevoir, parce que l'homme, étant essentiellement divin, s'est égaré de la connaissance de sa propre divinité, il doit le regagner. Je ne sais pas si vous vous rappelez, disons, en 1982, il y avait une publicité dans tous les journaux principaux du monde, et c'était l'annonce du venu du Seigneur Maitreya. Et donc, c'était le 25 avril 1982, où partout dans le monde a été annoncé le retour du Messie global. Et quelle était, disons, la publicité a été formulée de façon suivante. Quel est le plan? Il inclut l'installation d'un nouveau monde, disons, d'un nouveau gouvernement mondial et d'une nouvelle religion mondiale sous Maitreya, ou le Seigneur, le serpent, l'Antéchrist. Le but du Nouvel Âge, maintenant. Le Nouvel Âge prépare le venu du nouveau maître Lucifer et la destruction pour tout ce qui se rapporte à l'ancien ordre catholique. Afin de faire cela ou d'effectuer cette transformation, ce paradigme, comme on dit dans les milieux du New Age, ce passage de l'âge du poisson à l'âge du Verseau, il fallait absolument changer la façon que les gens pensent et agissent. Changer la façon que les gens pensent et agissent, et puis on va changer le monde, tout simplement. Donc, pour créer ce nouvel monde, ce nouveau monde et ce nouveau gouvernement mondial, cette nouvelle religion mondiale, il fallait créer de nouveaux besoins, tout simplement. Laisser de côté les besoins traditionnels, disons le ciel, et puis remplacer ce besoin par un besoin de se diviniser. De dire le ciel, c'est en dedans de moi-même. Le songe antique du démon, les croyances du Nouvel Âge. Afin de décevoir, disons, de tremper Adam et Ève et de les amener à la désobéissance, donc la désobéissance à la loi de Dieu, le démon les a dit, et notez ceci parce que je vais le commenter. Non, vous ne mourrez point, parce que Dieu sait si vous mangerez du fruit vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, sachant le bien et le mal. Non, vous ne mourrez point, parce que Dieu sait si vous mangez du fruit, vos yeux seront ouverts, vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Tout le New Age peut se résumer là-dedans. Vous ne mourrez point. Cela veut dire la réincarnation. Donc le temps, c'est un cycle perpétuel. Il n'y a pas d'avant des siècles, disons. Il n'y a pas un moment où l'éternité s'est rencontrée avec le temps dans une nouvelle création. Mais le temps est depuis toujours. Tout est en évolution progressive. Tout. Donc la conscience évolue. Bactéries, disons, il y a une évolution physique, selon eux, ou biologique, et ensuite il y a une évolution de la conscience vers cette conscience cosmique ou collective. La réincarnation, c'est la théorie selon laquelle l'âme de l'homme, après la mort, va réanimer un autre corps. À la suite d'un certain nombre de cycles de réincarnation, l'âme finit par fusionner avec le grand tout. Voilà. Donc il n'y a pas de mort dans cette optique-là. Comme nous faisons partie de Dieu, nous sommes immortels. Et donc la mort est une voile entre deux vies. Voilà. Donc vous avez vu des fois dans des livres hindous ou des Hare Krishna, ils ont un petit enfant qui est né. Et puis il grandit, devient un vieux monsieur. Il tombe et puis il devient un petit enfant. Et puis ça continue. Donc, il n'y a pas, dans l'optique traditionnelle, même autrefois au Québec, on avait des affiches et dans des maisons, puis c'était la vie. Puis il y avait le petit enfant, disons, le petit garçon, le monsieur qui s'est marié, ensuite l'homme au milieu de sa carrière, à la retraite, dans la chaise roulante, et puis qui meurt. Et voilà. Et ensuite, il y avait le Christ souverain juge qui jugeait. Il y avait la mort, le jugement, le ciel, l'enfer. Mais toutes ces vérités sont évacuées par la réincarnation. Donc c'est une hérésie. C'est une théorie incompatible avec les points suivants de la doctrine catholique. L'âme est créée par Dieu au moment de la conception. Donc les parents disposent de la matière, et puis le petit enfant devient une personne humaine. Quand Dieu fusionne l'âme, disons, cet âme immortelle créée au moment de la conception avec la matière, corps, âme, une personne humaine. La personne est une composée de corps et d'âme. L'âme ensuite est jugée par Dieu, jugement particulier immédiatement après sa mort, instantanément. Et son sort fixé pour l'éternité au moment même de la mort. Après la mort, il n'y a plus de temps. Le temps arrête, l'éternité commence. L'éternité, le temps, éternité. Et puis, on est figé dans notre dernière volonté. Donc, si notre dernière volonté était un acte d'amour de Dieu, nous allons au ciel. Si notre dernière volonté était un acte de haine contre Dieu, nous irons en enfer. Il n'y a plus de temps. On ne peut plus se convertir après la mort parce qu'il n'y a plus de temps. C'est comme l'homme du glacier qu'on a trouvé en Autriche. Il était glacé pendant 5000 ans. C'est la même chose dans l'éternité, mais il n'y a pas de dégel. On est figé dans l'éternité. On ne peut plus. Satan ne peut plus se convertir parce qu'il n'a plus de temps. Il est fixé dans l'éternité. Voilà le dogme catholique. Présence de la réincarnation au sein du Nouvel Âge. Quand dans la littérature du Nouvel Âge, il est constamment question de vies antérieures, de vies futures, de cycles de vie. Donc ces croyances amènent à l'hypnose des vies antérieures. Par exemple, j'étais Shakespeare, j'étais Cléopâtre, j'étais je ne sais pas quoi d'autre. Toujours des personnages importants, bien sûr. Vous n'étiez jamais le cordonnier dans la rue, mais toujours quelqu'un de très grand, de très important, bien sûr. Le démon, c'est un spécialiste flatteur, la flatterie. Le médium, donc le channeling, est la possession par le démon. Voilà. Parce que, je vais parler de ça tantôt, mais le channeling, c'est l'accès à l'occulte, l'accès au monde au-delà, c'est-à-dire le monde des démons et des anges. Et du combat des principautés et des dominations. Donc dès qu'on rentre là-dedans, sans armes, on risque d'être envahi par l'ennemi, à qui on a invité de venir chez soi. Donc, channeling, médium, amène à possession du démon. Pas forcément, mais ça peut très bien aller vers là. Il n'y a pas de jugement divin selon cette optique. et le désespoir, le suicide, parce qu'on ne peut jamais échapper à cette vie. On est comme condamné d'être réincarné toujours, toujours, toujours. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'angoisse, tout est un. C'est terrible. Vos yeux seront ouverts. Cela veut dire l'auto-illumination. Vous pouvez tout faire par vous-même. Je rappelle, j'étais à Vancouver, puis j'ai rencontré deux gamins qui jouaient comme ça dans un forêt, puis je les ai parlé comme ça, j'étais en Soudan, ils me regardaient comme ça, qu'est-ce que vous faites par là, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous faites par là vous autres, parce qu'ils avaient des cheveux un peu bizarres, donc on se regardait les uns les autres, et puis je demandais, ben, vous croyez en quoi vous? Et ils disaient, je crois, un disait, je suis agnostique, c'est pas mal, 12 ans, et puis je suis agnostique, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, c'est qu'on ne peut pas connaître Dieu, puis il savait exactement ce que ça veut dire, puis c'était sa croyance, voilà. Puis l'autre, c'était plus New Age, il disait, moi, je crois, si je projette le succès, j'aurai le succès. C'est ma religion. Si je veux une Rolls Royce, je le projette, je l'aurai. Si je veux la santé, je le projette, je l'aurai. Voilà, etc., etc. Donc c'est cette idée que nous sommes des dieux. Nous avons puissance en la matière. Puis je dis, bon, je vais prier pour vous, vous allez prier pour moi, puis je dis, au revoir. Parce que vous avez, disons, l'infini dans vous. Vous avez le potentiel infini en vous. Vous avez la divinité en vous. Vous pouvez consulter des guides intérieurs venant d'une autre conscience ou d'un autre monde. On va parler de cela aussi. Donc, ce sont des démons. Comment cela serait-il possible selon les adeptes du Nouvel Âge, donc de connaître ces autres mondes? Maintenant, le dogme ou la croyance clé du Nouvel Âge. Si vous trouvez il y a 3 ou 4 marques du Nouvel Âge, des choses nouvelagistes, mais si vous trouvez cette marque, vous êtes sûr que c'est New Age, même si c'est déguisé avec plein de rubans et de couleurs. Et puis, système ternaire, qu'est-ce que c'est ternaire 3? Bien. Selon ce système, l'homme serait un composé de 3 principes d'être, et non de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, selon la foi catholique et selon la sainte philosophie de Père Daniel, l'homme, la personne humaine, est composée de corps et âme. Mais selon le New Age, on est composé de 3 choses. Le corps physique, le corps astral et le corps spirituel appartenant respectivement à l'un des 3 mondes qui constitueraient la réalité. Monde physique, monde astral, monde spirituel. C'est-à-dire, le monde est un tout. C'est le tout holistique, c'est-à-dire tout est tout en Dieu. Tout est Dieu, tout est un tout. Bien. Et donc, dans ce monde, il y a 3 éléments. Il y a le monde physique, donc l'existence matérielle. Ensuite, il y a le monde spirituel, qui est le Brahma, ou cette conscience collective. Et entre les deux, il y a un monde qui touche, qui a un pied dans le physique et un pied dans le spirituel. C'est le monde astral. Voilà. Là encore, il s'agit d'un système aberrant du point de vue philosophique et incompatible avec la doctrine catholique. Celle-ci enseigne que l'homme est un composé, comme je vous ai dit, de 2 principes d'être et pas de 3. Matière et forme, corps, physique et âme spirituelle. Telle âme, tel corps. L'âme est faite pour le corps, ne peut pas voyager de corps en corps parce que l'âme, au moment de la conception, est faite pour la matière. C'est le principe de vie immortel parce que universel, l'intelligence peut abstraire des universaux. L'âme est faite pour telle matière. Il ne peut pas voyager dans un autre corps. C'est aberrant du point de vue philosophique. Présence du système ternaire au sein du Nouvel Âge. Donc, il y a multiples références à l'aura, ou le corps astral, donc cette projection du corps physique en dehors même de tout du Nouvel Âge, c'est de sauter de son corps dans la conscience afin de faire des voyages astrales afin de se réunir aux consciences collectives qui est le Brahma, le tout universel. Donc c'est le moyen. Bon, il y a des médiums, il y a des esprits qui viennent nous voir et ensuite on va les voir. Comment est-ce qu'on va les voir? On va voyager avec notre corps astral dans ce monde entre les deux avant de se fusionner avec Dieu. Mais pour hâter cette évolution, on veut quitter notre corps. C'est ça, le tout du Nouvel Âge, c'est de transformer son cerveau afin de sauter par un paradigme, une transformation dans un autre royaume, qui est le royaume de Dieu, entre guillemets. Donc, il y a projection astrale, donc il y a voyage hors du corps, on va voir des ovnis ou des choses comme ça, on va parler avec des petits bonhommes sur une planète quelque part. que l'on trouve dans les livres, revues et conférences du Nouvel Âge, c'est traité avec un grand sérieux parce que c'est très réel. Ça existe. Mais disons, on peut parler de ça tantôt. Cela manifeste une adhésion sans équivoque au système ternaire. Toutes ces petits traits ou accidents que je viens de vous dénommer. Ensuite, une autre marque, c'est le spiritisme. Et je vais citer l'abbé Boulanger dans un œuvre classique donc, de la théologie catholique qu'on étudie donc, au séminaire, la doctrine catholique, c'est ça l'œuvre. Citation de l'abbé Boulanger. Le spiritisme est la science occulte qui se propose, en invoquant des esprits désincarnés, de connaître les choses cachées, par exemple le sort des défunts et les secrets de la vie future. Les spirites demandent leur réponse à des intermédiaires appelés médiums, c'est ça le channeling, qui est un mot moderne pour décrire la même chose. La pratique du spiritisme est une superstition, donc continue avec l'abbé Boulanger, tout à fait illicite, car il n'est pas dans l'ordre divin que Dieu envoie les bons esprits pour favoriser la curiosité humaine. Si les esprits répondent aux investigations des spirites, donc des médiums, il ne peut donc s'agir que de démons qui ne veulent entrer en communication avec l'homme que pour lui nuire et le pousser au mal, sous l'apparence du bien. Présence du spiritisme au sein du Nouvel Âge. Donc le recours sans complexe aux entités, par toujours des entités, des choses qui sont dans d'autres mondes vers lesquels on est en train de s'évoluer, de se fusionner, qui ne peuvent guère être que des esprits infernaux, s'exprimant à travers des médiums et sans doute l'aspect le plus étonnant et le plus inquiétant du Nouvel Âge. Avec le Nouvel Âge, l'appel aux puissances infernelles qui autrefois ne s'effectuait que devant des auditoires restreints, donc dans des chambres un peu dans les ténèbres et puis avec des dames, avec des cristaux, des globes, c'est comme dans des bandes dessinées. Maintenant, ça se fait à la télé. Ça se fait devant des millions de personnes. On fait le channeling de Lazarus, par exemple, c'est très connu aux États-Unis. Il y a un médium qui fait le channeling, qui a son esprit guide, qui parle pour les temps modernes. Puis tout ce que vous voulez, vous demandez tout ce que vous voulez comme question curieuse, et puis il va vous répondre avec tout plein de réponses très belles. Puis c'est toutes les networks, ils montrent ça. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, ces phénomènes se produisent devant des millions de spectateurs par le canal de la télévision et en touchent des millions d'autres grâce aux vidéocassettes. Nous sommes parvenus à l'âge du contact avec les esprits par voie électronique. Donc, Ankerberg, qui est un grand, philosophe nouvel-âgiste. Donc, ces croyances amènent à l'esprit d'indépendance. Nous sommes des dieux. La drogue et la culture du rock, parce que la plupart des gens qui se lancent dans des expériences, du spiritisme, de l'occultisme, ou du channeling, du contact avec des ovnis, il y a 2 mois, j'ai vu un monsieur qui conduisait en ville avec des panneaux, il disait « les ovnis nous attendent », et puis prier les ovnis, ou je ne sais pas quoi. Bon, sans doute, il pourrait donner la conférence mieux que moi. Mais la drogue et tout ça, l'LSD, la plupart des gens en tête de ces groupes, de ces organisations, ils ont commencé leurs expériences, disons, et ce soif de se fusionner avec cette conscience collective qui est le Brahma, donc des hindous, par les expériences, l'expérimentation avec la drogue. Bien, ça amène aussi aux horoscopes, la psychothérapie et la psychanalyse, et aussi les psychotechniques. Quelles sont les psychotechniques du Nouvel Âge? En tirant parti de l'engouement du monde moderne pour la psychologie, le Nouvel Âge se présente souvent lui-même comme une forme de psychologie appliquée, d'où le nom de plusieurs de ces groupes, psychologie humaniste. Donc j'ai toute la liste dans mon livre par Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy. À la fin, elle a toutes les adresses et tout de tous ces groupes, je peux vous les donner si vous intéresse. Psychologie humaniste, psychologie transpersonnelle, mouvement du potentiel humain. La psychologie est ici conçue dans une optique évolutionniste. L'homme qui aurait évolué depuis le limon ou l'algue des origines continuerait à évoluer
son esprit pourrait acquérir un potentiel de plus en plus grand et passera progressivement à l'état du super-esprit, super-mind. Donc, ce jeune monsieur de 12 ans que j'ai vu à Vancouver, avec les cheveux comme ça, il a dit la même chose, mais plus simplement, disons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du psychologue Maslow. C'est un des grands, disons, dans tous nos cours, au Québec aujourd'hui, de la formation personnelle et sociale. On suit l'échelle des besoins de l'autoprojection de Maslow. Donc, ce sont des besoins hiérarchiques. Le pyramide des besoins, c'est le truc que nous, tout enfant au Québec doit l'apprendre. Maslow, c'est un occultiste, c'est un nouvel âgiste qui est versé dans le taoïsme. Et c'est un des grands des philosophes nouvel âge aujourd'hui. Même moi, disons, je suis enseignant, je dois enseigner cela. Et c'est inspiré tout à fait par cette idée que l'homme évolue en Dieu. C'est ça ce qui inspire cette échelle des besoins de l'homme. Ça s'appelle l'autoréalisation, voilà, de Maslow. Puis ça s'encadre tout à fait dans les techniques psychotechniques du Nouvel Âge. Donc, diverses psychotechniques sont utilisées par le Nouvel Âge. Certaines d'entre elles, dynamique de groupe par exemple, n'ont a priori rien à voir avec l'occultisme, mais sont néanmoins dangereuses parce qu'elles aboutissent à une dépersonnalisation. Donc, Carl Rogers, qui est un autre grand des psychanalystes modernes, Nouvel Âge, tout à fait. Il dit que la dynamique de groupe est un moyen permettant de modifier la structure de base de la personnalité. Et c'est essentiel pour le shift du paradigme des Nouvel Âgistes. Il faut transformer la personnalité et le cerveau afin de faire cette autoréalisation, de se diviniser. Donc, ce sont tous des techniques occultistes qui sont pris des techniques Jung aussi, c'est un autre nouvel agiste dans cet esprit-là, c'est pris des techniques occultes, orientales et théosophiques. D'autres psychotechniques, activation mentale, méthode Silva, yoga, zen, méditation transcendantale, sont plus dangereuses encore parce qu'elles sont ouvertes à l'occultisme, en sort de l'occultisme ou en sont imprégnées par l'occultisme. Vous serez comme des dieux. Cela veut dire, pratiquement parlant, le panthéisme. Nous sommes tous dieux. Il n'y a aucune distinction entre le créateur et la créature. Dieu est une force impersonnelle. C'est un peu comme Star Wars, la guerre des étoiles. La force soit avec vous. C'est plus le Seigneur soit avec vous. C'est la force soit avec vous. Voilà, c'est cet esprit, cette chose, cette puissance au-dessus qui nous dirige, ou je ne sais pas trop comment, mais c'est une force impersonnelle, une divinité impersonnelle. Dieu, c'est le Brahma de l'hindouisme, la force ou l'océan de souveraine connaissance. Seulement Dieu existe, tout est Dieu. La seule existence est Dieu. L'existence matérielle est une illusion. Et c'est une voile entre nous et la réalité. Donc nous devons échapper à l'irréalité par l'évolution spirituelle et les techniques occultes. Ces croyances amènent, au culte de la nature, donc nature food, c'est-à-dire la nourriture naturelle, business mentalité, les conservationnistes, l'écologisme poussé à l'extrême, par exemple, les droits des animaux, par exemple. On a des hôtels, des restaurants pour des chiens et des chats aux États-Unis, puis ça fait rage, des limousines pour des chats et des chiens, des cimetières pour des assurances, des testaments, on peut tout faire aujourd'hui. C'est les hommes, en tout cas. L'infini potentiel de l'homme, donc ça amène à l'infini, cette idée que l'homme est Dieu. Donc c'est l'orgueil, tout simplement. Si je vous pousse par la fenêtre, vous allez tomber sur votre tête, puis vous allez mourir, tout simplement. Donc, c'est l'orgueil de penser qu'on a une puissance infinie et qu'on est Dieu. Donc, le panthéisme, c'est la croyance fondamentale de l'hindouisme. Donc, le divin est en dedans de nous-mêmes. Le panthéisme, le but du panthéisme, c'est que l'homme doit se rendre compte qu'il est Dieu, tout simplement. C'est le système d'explication du monde qui confond le créateur avec sa création. Et les conséquences de cela, c'est la négation du dogme de la création. L'homme est divinisé. Le ciel, l'enfer n'existe plus. On n'a plus besoin d'un rédempteur, le Christ, par exemple, qui nous a rachetés. On n'a pas besoin, parce qu'on est Dieu, pas besoin de quelqu'un qui vient mourir sur la croix, si on est Dieu, quand même. Présence du panthéisme au sein du Nouvel Âge. On y trouve d'innombrables affirmations, comme celle-ci, par exemple, de Shirley MacLaine, qui a une grande influence dans les cercles du Nouvel Âge. Aux États-Unis, elle a fait un programme Out on a Limb, Out on a Branch, loin sur une branche, disons, où elle part de son guide esprit, son monsieur qui lui guidait, comme ça, le petit démon, à mon avis, qui venait lui parler. Et un beau jour, le monsieur qui était à côté de lui disait, elle était sur la plage, criait, c'était à la télévision, il y avait des millions de personnes qui regardaient ça, criait, je suis Dieu. Et elle lui regardait comme ça, et puis, oui, oui, allez-y, vous êtes Dieu, crie, je suis Dieu. Donc, elle crie, je suis Dieu. Non, 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 pas comme ça, je suis Dieu. Puis, faites ça, je suis Dieu. Et puis, elle, c'était à la télé, et puis vos enfants l'ont vu, sans doute, si vous avez la télé chez vous, ça s'est passé. Bon, voilà, c'est une dame qui a une grande influence, c'est une dame qui fait le channeling, elle fait toutes les pratiques occultes, etc., etc. Elle se croit être Dieu. Sinon, elle ne l'aurait pas dit à la télé. Elle n'aurait pas pris le temps de nous le dire. Il fait beaucoup d'argent. Donc, le Nouvel Âge détruit la distinction entre les créateurs et les créatures. Et donc, le monde est Dieu. Et l'homme est transformé et transcendé, si on peut dire. On ne peut pas tellement le dire, mais je vais le dire quand même. En Dieu. Et donc, nous sommes dans un panthéisme absolu. Dieu est, disons, la conscience qui anime la mort. Toute chose devient Dieu. C'est pourquoi, par exemple, le Nouvel Âge parle de la Terre-Mère. C'est pourquoi dans plusieurs églises catholiques aujourd'hui, on dit notre Mère-Père, ou notre Père-Mère, ou notre Mère, tout le coup. C'est toute cette idée holistique que le monde, c'est le principe féminin, le monde est Dieu, nous sommes Dieu. Nous allons que, disons, elle est la mère de toutes choses, le monde. Donc, l'homme doit respecter la Terre, c'est la nature-mère, parce que Dieu est vert. Et nous devons adorer ce Dieu vert, et cette Mère-Terre, et c'est le panthéisme pur, disons. On a même fait en El Salvador, avec la théologie de la libération, des chemins de croix, où on parlait de la chute des arbres. Et les arbres tombent pour la troisième fois. Ce sont des blasphèmes, où on divinise la nature, c'est ridicule. Mais c'est une blasphème terrible contre le premier commandement de Dieu. Ensuite, il faut parler du naturisme, donc du Nouvel Âge. Sous l'étiquette naturisme est compris tout un ensemble de préoccupations et de disciplines développées par le Nouvel Âge, mais pas seulement par lui, pour un retour à la nature dans la manière de vivre. Cela touche l'écologie, la géobiologie, médecine de l'habitat, donc être en... disons, c'est l'ONU a fait un programme d'habitat, c'est très connu à Vancouver en 76, je crois, c'est Mère Thérèse et puis Pierre Trudeau qui ont... ouvert ce grand événement où on parlait justement de Dieu, terre, habitat, c'est être en lien avec le Dieu terre. C'est le Wicca, donc c'est le cultisme, bon, c'est une autre conférence. La diététique aussi, les médecines parallèles. Donc, comment distinguer entre les bons et les mauvais usages dans le mouvement naturiste, parce qu'on peut. Le bon Dieu nous a donné la nourriture naturelle, est-ce qu'on ne peut pas en manger? Bien sûr que oui, mais il faut distinguer. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a bien des choses qui sont véhiculées sous une étiquette de nature, naturelle, puis derrière, il y a toute une philosophie cachée, New Age. C'est ça le problème. Ce n'est pas la chose, c'est l'usage qu'on fait de la chose, c'est l'intention derrière. Parce que tout le monde veut être en bonne santé, sinon... C'est naturel. Donc, dans cet ensemble de considérations très diverses, il faut distinguer. On trouve des disciplines ayant un véritable caractère scientifique. La kinesthésie, disons, par pression, on touche partie du corps. Il y a des choses, des énergies, il semble, dans le corps. Il y a des gens doués pour ça. Il y a des études sérieuses, il semble, des conclusions fondées, des pratiques et des conseils justifiés. Des affirmations gratuites, par contre, des orientations systématiques, peut-être justifiées, au moins partiellement, mais dont la justification n'est pas donnée ou est insuffisante, par exemple en géobiologie. Donc on manque toute une science qui est fondée finalement sur rien du tout. Seulement sur des faits qu'on constate, mais on ne sait pas l'origine du pouvoir, et puis c'est difficile de codifier, de le cerner. Donc c'est facilement abusé. Moi j'en connais des cas. Très sérieuse de possession diabolique, par exemple, des gens qui pratiquaient la géobiologie. Des théories discutables qui peuvent avoir un côté de charlatanisme, par exemple, des cristaux. On met des cristaux sur le front et puis on saute dans un autre univers comme si votre tête sautait et puis vous sautez dans le dieu de l'univers. Il y a des gens qui ont des chambres de méditation avec des cristaux. Il y a des gens qui ont leurs cristaux. Il ne faut pas parler à leurs cristaux. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas dire un mot parce que c'est un pouvoir, une puissance. C'est comme un pet rock, mais poussé, ça devient une divinité. Et c'est un fétiche qui nous aide à hâter notre évolution spirituelle pour devenir Dieu. Et ils sont des fois possédés, ils ont des réelles puissances, des pouvoirs. Je connais des cas, par exemple, de ces fétiches où il y avait des feux dans le placard, il fallait des exorcismes. Pas. Vous connaîtrez le bien et le mal. Cela veut dire le relativisme et le subjectivisme. Il n'y a pas de loi morale qui lie la conscience. C'est évident, d'après ce que je viens de dire. Il n'y a pas de vérité immuable. Dans votre opinion, c'est bon, c'est très bien, c'est votre opinion, c'est sacré. Puis mon opinion, c'est bon aussi. Puis l'opinion de tout le monde est bon. Si vous voulez avorter, très bien. Si vous voulez être homosexuel, très bien. Si vous voulez abuser des enfants, très bien. C'est votre opinion, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de loi. La loi naturelle, ça n'existe pas. Ce sont des niaiseries racontées aux gens. Faut pas nous... C'est la religion qui a servi l'homme et puis invente des histoires afin de donner la culpabilité, etc. etc. Voilà. Il n'y a pas de péché. La religion est quelque chose seulement de subjectif. La licence absolue. Parce que si le bien c'est le mal c'est le bien, bon. Licence absolue, égalité absolue entre le bien et le mal, entre les œuvres du ténèbre, les ténèbres et les œuvres du bien. Comme j'ai dit, le bien et le mal, ce sont des illusions. Donc, le New Age détruit le principe philosophique du non-contradiction. Une chose ne peut pas être et ne pas être au même temps et sous le même rapport. Grand-maman ne peut pas être dans la chaise et dans le parking, dans le même temps, sous le même rapport. C'est évident. Donc, c'est lui qui dit que 4 plus 2 égale 6, et au même temps 4 plus 2 égale 7, il y a un petit problème. Au moins, si vous êtes architecte et vous essayez de construire des bâtiments sur ce principe, il y aurait un petit problème. Donc, la destruction du premier principe, surtout celui de l'identité et aussi de la non-contradiction. Bien. Donc, pour le nouvel âge, les contradictions et les distinctions entre les choses sont purement artificielles. Pour parler vraiment simplement, il n'y a pas de distinction. La séparation entre les choses que nous constatons, il semble que nous constatons, c'est une illusion. Donc cette fausse philosophie introduit dans les intelligences et dans les faits un désordre, une anarchie et une révolution totale. Donc sous guise de l'ordre et puis de loi et puis etc., etc. On introduit l'anarchie, la révolution et le désordre complet. Par exemple, le New Age pousse, disons, pour la révolution sexuelle, pour détruire les vertus moraux traditionnelles du catholicisme, bien sûr. Les autres, ça ne vaut pas la peine parce qu'il y a longtemps qu'ils ont abandonné tout principe. Et maintenant, je voudrais faire un petit dessin sur le tableau pour vous aider à comprendre un peu le principe du New Age. Donc... Ça c'est noir, ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est blanc. C'est le yin et le yang, c'est le taoïsme. C'est un symbole très important qui va vous aider à comprendre le New Age. Et c'est le symbole que Maslow mit, par exemple, mais comme dans les livres, par exemple, de formation personnelle et sociale au Québec, aujourd'hui, secondaire 1. Taoïsme, yin et yang, à côté des principes de Maslow. Que je dois enseigner aux enfants. Yin et le yang. Donc le mal, le noir, est dans le bien, et le bien est dans le mal. C'est un tout, un cercle. Le noir est avec le blanc est avec le noir. Le noir est dans le blanc, et le blanc est dans le noir. Donc le mal c'est le bien c'est le mal, le bien c'est le mal, et vice versa. Le vrai c'est le faux. Et vice-versa, le vrai et le faux, bien le mal, font une réalité unitive à tout. Donc le mal est le verso de la médaille du bien. Le mal est incomplet sans le bien et vice-versa. Les deux font partie de la divinité. Le bien est divin, le mal est divin. Ce sont des polarités qui doivent être transcendues. Ils ne sont pas absolus. Donc un avortement, ce n'est pas un crime parce qu'il n'y a pas de mal. Aussi, la réincarnation, le petit a choisi d'être avorté. C'était sa faute. Ce n'est pas ma faute à moi. Et puis, il va se réincarner de toute façon, donc il n'y a pas de mort. C'est une illusion. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on véhicule des valeurs complètement farfelues, où on fait n'importe quoi. Ce sont des polarités qui doivent être transcendues, ils ne sont pas des absolus, comme je viens de dire. Ces croyances amènent au péché légalisé, à la révolte, disons, des impudiques dans la société, des lois de non-discrimination, donc des personnes qui vivent dans la perversion, ils peuvent adopter des enfants, par exemple, aujourd'hui, ils peuvent se marier, etc., etc. C'est le chaos dans la salle de classe, il n'y a pas de discipline, parce que tout est bien, c'est le petit qui s'exprime, c'est Dieu, il faut l'écouter, il faut se mettre à faire des salamèques devant lui. L'écumenisme, liberté absolue de la conscience, en référence à la vérité, liberté sans vérité, le libre pensée, disons, et puis bien d'autres erreurs dont on pourrait parler une autre fois. Ensuite, pour conclure, disons, petite conclusion, les croyances du Nouvel Âge, en résumé. Le phénomène est très complexe et a de multiples facettes. Donc le Nouvel Âge se ramène, pour l'essentiel, à trois caractéristiques principales. Il allie au sein d'une même mouvance trois choses. L'occultisme le plus traditionnel, c'est-à-dire qui vient des Indes, qui vient des traditions kabbalistiques. Vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie et sous, c'est pas la section des plus religions, mais c'est philosophie et occultisme, je crois, aujourd'hui. Et puis, bon, vous pouvez trouver des livres comme ça qui traitent de ces affaires qui dataient pas d'hier, mais qui sont là, sont aussi vieux que le monde des démons. La pratique de diverses psychotechniques. Le naturisme compris un souci de mieux connaître et respecter la nature. L'occultisme du Nouvel Âge. L'occultisme, c'est l'ensemble des sciences occultes et des pratiques qui s'y rattachent. Se caractérise donc cet occultisme principalement par quatre marques. Donc voilà un autre point clé de la conférence. Si vous mettez ces quatre marques dans votre tête, vous n'allez jamais être trompé par des mouvements vaguement New Age, parce qu'il y en a des mouvements plus New Age, il y a des mouvements moins New Age. La réincarnation, donc c'est le panthéisme d'abord, la réincarnation, le système ternaire et le spiritisme, tous les quatre sont des hérésies, donc des blasphèmes contre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et celle de l'Église. Donc l'interpénétration entre l'occultisme, psychotechnique et naturisme. Parce qu'il y a un lien, il y a un networking. Tout ça, il y a des affiliations très loose, comme on dit, je ne sais pas comment dire ça en français, mais disons entre les différents groupes et entre les différentes philosophies. Il y a quelque chose pour tout le monde. Everyone's a sucker avec New Age. C'est-à-dire il y a quelque chose pour tout le monde. Si ça ne marche pas avec ça, ça ne marche pas avec autre chose. Au sein du Nouvel Âge, on passe des psychotechniques et du naturisme à l'occultisme de façon naturelle et sans donner d'explication. Par ailleurs, certaines activités naturistes et plusieurs psychotechniques utilisées sont imprégnées d'occultisme. Et c'est donc celui-ci qui unifie, cet occultisme, les aspects très diversifiés du Nouvel Âge et qui en constitue de ce fait même l'essentiel. L'organisation maintenant du Nouvel Âge, c'est difficile parce que c'est le désordre plutôt. Le Nouvel Âge se présente comme un réseau unifiant dans un même esprit général et dans la poursuite des mêmes buts à long terme, un homme nouveau, une terre rénovée. Et c'est dans le Marilyn Ferguson dans son livre, c'est de créer par le paradigme ou la transformation sociale un nouvel monde, nouveau gouvernement, nouvelle religion. Ces trois choses-là. Et puis, les chrétiens, tous ceux qui ne veulent pas sauter dans ce saut de conscience collective, par quelle méthode, il y a plusieurs méthodes, on peut faire, si on refuse de faire ce saut, si on vient à gouverner un jour, et elle le dit en toute lettre, tous ceux qui ne veulent pas évoluer, vers la conscience collective de se diviniser, mais qu'ils sont ignorants, mais coupablement, c'est-à-dire qu'ils restent dans ces idées de péché, Église, tout ça, Jésus-Christ, ils vont éliminer. Voilà. On va les éliminer par la violence. Pourquoi? Ils sont en pacifisme, violence, le New Age, c'est plutôt pacifique. Non, pas du tout. Parce que tout est un. Violence, pacifisme, c'est deux, la même chose. Verso, médaille, vous rappelez, yin-yang, violence, pacifisme, peu importe, les méthodes, tout est illusion de toute façon. Le tout, c'est de hâter l'évolution de la conscience collective au niveau des familles, des pays, faire un networking de pays en pays, de faire monter la tension de cette conscience collective pour faire le saut dans Dieu, pour transformer, ça semble un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Bien, donc d'innombrables réseaux appartenant à tous les milieux. Éducation, je vous ai démontré que New Age se trouve dans l'éducation. Santé, je veux parler une autre conférence pendant 3 heures sur ça. Monde des affaires, industrie, milieu politique, scientifique, religieux, artiste, monde du spectacle, médias, surtout les médias. C'est en somme un réseau de réseaux. Donc aux États-Unis et au Canada, les groupes ou réseaux élémentaires se rattachant au Nouvel Âge était au nombre de 10 000 en 1979, quand le livre de Marilyn Ferguson a été écrit. Mais ça, il y avait 1000% d'expansion depuis ce temps-là. Donc ça grandit partout. Le fait qu'on enseigne ça à nos enfants, ça montre bien que ça a du succès quelque part. Nouvel Âge et franc-maçonnerie. Ces deux mouvements qui trouvent ou ont trouvé aux États-Unis et en Amérique du Nord en général leur champ d'expansion maximal, sont nécessairement en connexion l'un avec l'autre du fait des points qu'ils ont en commun. Ça semble peut-être un peu gros, mais je vais faire le preuve. Un esprit commun, c'est-à-dire tous les deux sont basés sur l'occultisme et le culte de l'homme. On échange les valeurs traditionnelles pour des valeurs du syncrétique de la nouvelle religion mondiale. Le culte de l'homme, c'est ça au cœur de la franc-maçonnerie, c'est l'idée que l'homme est Dieu. Des objectifs communs. Une religion nouvelle venant supplanter la religion catholique, c'est le mondialisme. Donc toute cette démarche de supprimer les pays, free trade, Mexico, Canada, America, ONU, CEE, tous ces mouvements, ce sont des mouvements justement pour hâter cette nouvelle ordre mondiale, le New Age. Conclusion finale. Le Nouvel Âge séduit par son optimisme, parce qu'il sert de remplacement aux valeurs chrétiennes. Et il séduit par son aspect moderne. On est à la page, on n'est pas à côté, on porte des couleurs, la vie est plus excitante, on a plus d'amis, on gagne plus d'argent, on n'est pas marginalisé. Son ouverture au mondialisme est aussi séduit. Et par l'efficacité dont il peut se vanter. Donc, récemment, par exemple, j'allais dans une famille, quelqu'un, et puis un joyeux sur la table, un livre. Et puis c'était par Lise Berlange, Et c'était un livre qui s'appelait... Il y en avait un qui était « Waouh, je suis Dieu ». Et puis l'autre, c'était... le titre, c'était aussi bizarre, mais c'était... « Découvrir le Dieu en vous », quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, et je l'ai lu. Puis ça circule partout, il y a des milliers de copies qui se vendent au Québec, et ça coûte cher, 16 piastres par livre. Et puis, ça se trouve partout. Puis j'ai demandé à la dame qui lisait ça, elle a reçu ça en cadeau de fête comme ça, puis elle n'avait aucune idée. Elle disait, ah oui, il y a des techniques pour se guérir et tout ça, c'est très bien, côté santé. Et j'ai dit, mais vous allez regarder, karma, réincarnation, vous êtes Dieu. Elle dit, oh oui, mais vous savez, le cerveau a une certaine puissance, et puis, puis vous étonnez que ça pénètre dans le milieu catholique. C'est que les gens ne sont pas du tout armés contre ça. Efficacité qui explique en bonne partie ces liens étroits avec l'occultisme, c'est-à-dire avec le démon. Celui-ci n'a-t-il pas dit à notre Seigneur lorsqu'il l'a tenté dans le désert, « Je vous donnerai toute cette puissance avec leur gloire, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. » Un travail de mise en garde est indispensable selon les grandes lignes suivantes. Le Nouvel Âge est essentiellement un occultisme aux couleurs scientifiques, écologiques et des fois politiques, et banalisé grâce aux médias. Il faut absolument éviter de participer à ces activités et néanmoins le connaître de façon suffisamment précise. connaître l'occultisme et les marques, les quatre marques, vous vous rappelez, panthéisme, réincarnation, système ternaire, l'occultisme. Ils permettent de les réparer, donc ces marques permettent de réparer. Connaître celles des psychotechniques utilisées qui pénètrent en milieu catholique et en comprend la nocivité. Dans la lutte contre un mouvement qui représente une résurgence du satanisme, tout court, c'est ça, c'est le satanisme. Le recours à la prière est indispensable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On va peut-être réciter un petit prière, et puis s'il y a des questions, vous pouvez demander. Sinon, il y a une vidéo qui est très intéressante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était le commencement, maintenant et toujours,
dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Notre-Dame de Fatima.
Priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. S'il y a des questions, n'hésitez pas à demander.
Si vous avez des questions, s'il vous plaît, Robin, est-ce que vous pouvez apporter le micro aux personnes qui vont poser des questions? Certainement, vous parlez assez fort pour être entendu dans la salle, mais pour l'enregistrement, ce n'est pas suffisant.
Oui?
Vous avez parlé du Congrès des religions de Chicago.
Oui. Le
Congrès des religions de Chicago en 1870.
93.
N'y aurait-il pas un rapprochement à faire avec la réunion d'assises de 1985?
Tout à fait, oui. Ouais, c'est-à-dire, il y a un parallèle, disons. C'était un parlement des religions mondiales, et puis les catholiques ont été invités. Ce n'est pas le pape qui l'a convoqué, quand même, mais c'était des modernistes chrétiens qui ont appelé ça toutes les religions pour prier ensemble. Et pour justement faire une religion mondiale, le pape l'a condamné solennellement. Il y a une encyclique qui a été donnée à ce moment-là, où il condamnait cela comme étant contre le premier commandement de Dieu. Vous n'aurez pas de faux dieux devant moi. Et puis aussi qu'un catholique ne pourrait. Les catholiques pourraient organiser un parlement de religion, de la religion. Avec la messe, par exemple. Ils pouvaient inviter des païens ou des gens d'ordre de l'Église catholique pour essayer de les convertir. Mais quand se joindre à un mouvement qui, disons, essaie de faire un fusionnement entre toutes les religions avec un point central qui n'est pas au Vatican ou à Rome ou axé sur le pape, cela est une initiative vaine et diabolique. Donc le pape a fait un avertissement solennel, mais en 84, disons, le pape Jean-Paul II a convoqué un parlement de religion, tout simplement, où il a encouragé chaque religion d'adorer leur Dieu et de prier, que chacun prie dans son coin à son Dieu pour la paix. Et ensuite, il a permis, par exemple, dans la basilique de Saint-François à Assise, que les bouddhistes mettent Bouddha sur le tabernacle de l'autel et que le Dalai Lama l'a adoré avec tout le culte bouddhiste dans une église catholique. Et j'ai les photos d'une photographe professionnelle qui était là, qui a pris tous les clichés. Je les ai en ma possession. Et ça a été permis par le pape. Donc, il y a 100 ans, le pape a condamné solennellement une initiative pareille, ou analogue, et puis 100 ans plus tard, le pape convoque un parlement de religion. Donc il y a une petite difficulté, effectivement.